Bonjour à tous, ici Marie et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Bonne année! J'espère que vous avez bien profité des fêtes, de vos proches, de vos amis et que vous avez pris le temps aussi mentalement de faire un petit reset, une petite réinitialisation de toute l'année qui vient de s'écouler et que vous avez réussi à voir la lumière au bout du tunnel et ne pas voir toutes les choses qui n'ont pas forcément été. Je sais qu'à la fin d'une année, c'est un petit peu difficile de voir uniquement le positif parce qu'en fait, on se rappelle aussi surtout des moments qui nous ont marqués et pas forcément positivement, mais plutôt négativement. On se dit toujours qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux et qu'on aurait pu faire autrement, et c'est d'ailleurs ce qu'on se souhaite le plus souvent pour 2024. Cette année, au lieu des traditionnelles petites vidéos ou podcasts sur les résolutions de l'année, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent et de vous parler en fait des trois leçons que j'ai apprises en 2023. Pour moi, 2023, ça a été une année assez charnière dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, un peu plus d'ailleurs que ce que je veux bien me laisser entendre. Je pensais que ça allait être une année comme les autres, et puis je me suis vraiment trompée. Du coup, sans plus tarder, je vous propose de découvrir les trois choses que j'ai apprises durant l'année 2023. La première leçon que je tire de cette année, c'est que chaque chose vient en son temps. Je pense que je l'ai vraiment expérimenté cette année d'ailleurs plus que les autres, puisque pour la première fois, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus vite que la musique, comme on dit. C'est une expression de vieille personne que j'assume à 100%. Je n'ai jamais été quelqu'un de très patient. J'ai toujours eu besoin d'avoir les choses rapidement. Dans ma tête, si les choses étaient possibles maintenant, pourquoi attendre finalement? C'est un petit peu ce que je me suis toujours dit. Je sais pas tellement d'où ça me vient, mais je vous avoue que c'est pas hyper sympa comme trait de personnalité parce que vouloir tout maintenant tout de suite te fait prendre conscience que quand tu n'as pas les choses en les ayant attendues, tu n'en profites pas du tout autant. Ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose que vos parents ont sûrement dû vous dire un jour. Mais je suis désolée de faire la rabat-joie et de vous dire exactement la même chose. Toutes les choses que j'ai le plus appréciées dans ma vie sont des choses pour lesquelles j'ai dû attendre. Et cette année me l'a vraiment, vraiment très bien prouvé, notamment avec l'achat de notre maison. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous avez dû remarquer que depuis le mois de juillet, nous sommes installés dans notre nouvelle maison que nous avons achetée l'année dernière et les travaux se sont uniquement terminés cet été. Je vous avoue que ça a été pour moi un énorme challenge de devoir rénover cette maison. Alors heureusement, j'ai de la chance, c'est pas moi qui l'ai rénovée avec mes mains, mais mon cœur y était tout autant. Puisque la première fois qu'on a visité cette maison, c'était en juillet 2022. Puis, on a acheté cette maison en octobre 2022. On a eu les clés en décembre 2022. Et on a mis les pieds officiellement dans la maison en juillet 2023. Donc, un an plus tard seulement, on a emménagé dans cette maison. Et je n'ai jamais été aussi excitée de toute ma vie à l'idée de franchir les portes de ma maison en me disant « Enfin, c'est chez moi ». Et je peux vous dire que j'ai attendu. Parce que les travaux, c'est fastidieux. C'est compliqué, c'est parfois décevant, c'est mentalement très challengeant. Et je pense que les derniers mois, j'avais l'impatience d'une enfant de 2 ans qui attend ses cadeaux devant le sapin de Noël. Mais j'ai quand même pris conscience que c'est cette attente, finalement, qui m'a fait encore plus aimer la maison. Le fait de devoir travailler, attendre, avoir en fait cette espèce d'abnégation comme ça, avant d'avoir quelque chose entre ses mains. Ça peut paraître bête dit comme ça, parce que vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais oui, mais les travaux, c'est impossible d'être fait en moins de 6 mois. » Et ben, vous serez étonnés de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à faire les choses encore plus vite. Mais bon, je sais pas comment c'est possible, clairement. Donc oui, j'aurais pu faire en sorte d'emménager plutôt dans ma maison. Elle aurait pas forcément été terminée. Est-ce que j'aurais plus kiffé? Ben, je crois pas. J'aurais pas eu toute cette impatience, j'aurais pas eu toute cette attente. Et puis finalement, peut-être aussi que c'était pas le bon moment. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, moi je crois très fort aux synchronicités. Et je suis toujours convaincue que chaque chose arrive à un moment donné pour les bonnes raisons. Qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, j'y crois fortement parce que je pense que d'un autre côté, ça me fait aussi relativiser. Et ça me fait prendre du recul sur la situation quand une situation compliquée m'arrive. Et ben, je me dis que ça arrive pour une bonne raison, que ça devait arriver. Voilà, it was meant to be, comme on dit en anglais. Et donc, il faut le prendre en l'état et cette sorte de fatalité t'aide à accepter des fois les difficultés de la vie. Et ben, moi, je crois que c'est vraiment vrai. Je suis sûre qu'on nous met sur notre chemin uniquement des épreuves que nous sommes capables de traverser. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je vous ai pris l'exemple de ma maison, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Vous savez, des fois, quand vous pensez avoir une super idée, que vous êtes motivé pour un projet, et puis finalement que tout se casse la gueule, que vous n'arrivez pas à monter ce projet. Par exemple, vous cherchiez un appartement, vous en avez visité 30, vous pensiez que celui-là était le bon, puis finalement, bah, on vous dit que vous n'avez pas l'appartement. Vous vouliez prendre un chien cette année, puis finalement, vous n'avez pas réussi à trouver le chien qui vous correspondait. Eh ben, chaque chose en son temps. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas la meilleure des configurations pour acheter cet appartement ou accueillir ce chien. Et que si ça doit vraiment se faire, ça se fera. Eh ben moi, cette année 2023, elle me l'a vraiment appris. Ça a été vraiment, encore une fois, une année où j'ai dû apprendre à être patiente. Et je me remercie vraiment d'avoir su garder la tête haute, et ça, dans la maison, mais aussi dans mes autres projets, d'arrêter en fait de mettre la charrue avant les bœufs. Et par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Mais ce podcasteur miroir, je voulais qu'il voie le jour en septembre. Et j'ai beaucoup travaillé cet été pour que ce soit le cas. Et malheureusement, il y avait toujours quelque chose qui arrivait dans l'équation et qui faisait que le podcast ne pouvait pas sortir en septembre. Et j'avais beau y mettre toute mon énergie, toute mon âme et vraiment tout mon temps, ce podcast n'allait pas pouvoir sortir à temps. Et donc, je me suis simplement dit, bon, eh ben, c'est que c'était pas le moment. J'ai attendu, et puis au bout d'un moment, ça s'est débloqué. Et le podcast est sorti en octobre. Tout ça pour vous dire que il y a un moment pour tout. Et ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont beaucoup répété plus jeune, et que je n'ai pas forcément écouté, hein, parce que quand on est jeune, on est impatient, et on a envie de découvrir la vie et le monde le plus vite possible. Et quand on vieillit, on se rend compte qu'en fait, on a largement le temps. C'était ma première leçon de 2023. La deuxième leçon que j'ai appris en 2023, c'est une leçon un peu plus personnelle que je voulais partager avec vous. Vous le savez donc, je suis en thérapie depuis presque 4 ans maintenant et j'adore ma psy, je la trouve fabuleuse et elle m'a permis en fait d'avoir énormément de recul sur ma vie ces 4 dernières années. Et en fait, j'ai appris que je n'étais pas responsable des sentiments et des émotions des autres. Pendant des années, j'ai eu cette tendance très très forte à croire que j'étais responsable quand il y avait une dispute, croire que j'étais responsable dans le fait que certaines personnes n'aillent pas bien. Alors là, je parle vraiment des personnes de mon entourage proche, du coup, que ça soit plus parlant pour vous. Pendant très très longtemps, eu cette espèce de, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un espèce de syndrome où j'avais l'impression que c'était à cause de moi, que je pouvais arranger les choses, que je pouvais les aider. Et j'essayais à tout prix vraiment, mais par tous les moyens, d'arranger la situation, d'essayer de les faire parler, de discuter, de comprendre pourquoi ça n'allait pas. Et à chaque fois, je me faisais envoyer bouler, à chaque fois, on me faisait comprendre que eh ben, ce n'était pas mon business, hein, tout simplement. Ce n'était pas à moi de gérer ça. Et que de toute façon, je ne pouvais rien faire. Et cette idée m'était insupportable. Vraiment, l'idée même de me dire que je ne pouvais pas contrôler finalement les sentiments des gens et les problèmes des gens, ça me rendait folle. Après, je vous ai déjà parlé de mon petit problème de désir de contrôle, hein, sur toutes les situations qui existent. C'est ma manière à moi en fait de contrôler mes peurs aussi, tout simplement. Mais pendant des années, en fait, j'ai toujours eu une fâcheuse tendance à essayer de régler les problèmes pour les autres, à essayer de chercher pourquoi est-ce que l'autre se sentait mal. Jusqu'à ce que je réalise, surtout cette année, c'est vraiment cette année que j'ai réalisé ça. En fait, finalement, chacun a ses problèmes. Alors oui, bravo Marie, merci pour cette belle leçon. Chacun a ses problèmes, mais même des gens qui sont dans votre entourage proche. Et là, je parle par exemple de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos grands-parents. J'ai remarqué cette année, je sais pas si ça vous l'a fait aussi vous quand vous avez grandi, mais qu'on voit plutôt maintenant nos parents, nos grands-parents comme des adultes à part entière que comme des gens de notre famille. Alors oui, on les voit toujours comme des gens de notre famille, mais il y a cette phrase un jour que j'ai entendue dans un épisode de podcast qui m'a vachement intriguée, c'est « Si vos parents n'étaient pas vos parents, est-ce que vous les auriez pour amis ?» En gros, est-ce que la manière dont ils se comportent, leur philosophie de vie, leur pensée, leur manière d'agir, leur caractère, leur personnalité, vous plairait si ce n'était pas vos parents. Et ben moi, c'est une phrase que je me suis beaucoup posée cette année et je vous dirai pas la réponse dans ce podcast, c'est un peu trop perso parce que c'est bien plus nuancé que ce qu'on pourrait croire, mais ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je me détache émotionnellement de ces gens que j'aime à mourir. Finalement, à force de vouloir essayer d'être un modèle pour eux, ou alors la fille parfaite, ou alors d'essayer de régler leurs problèmes, quand en fait tu te rends compte que tu ne peux pas régler les problèmes par exemple de tes parents, ni même de tes amis, tu peux les aider mais tu ne peux pas les régler, et ben tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est peut-être pas à toi de remplir des missions qui ne te sont pas destinées. On ne peut pas être sauveur de tout le monde et surtout, il ne faut pas, je dirais, il ne faut pas l'être. Je pense que c'est très toxique. Il ne faut pas non plus implémenter des émotions dans des gens sans pour autant en être conscient. Par exemple, il ne faut pas se dire « oui, cette personne pense ça de moi » alors qu'en réalité, vous ne lui avez pas posé la question pour savoir ce qu'elle pense de vous. Bon, mon point globalement sur cette deuxième leçon que j'ai appris en 2023, c'est que, après moult digressions, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai vraiment appris à me détacher des vies des gens que j'aime. Quand j'ai réalisé qu'en fait, je ne pourrais pas régler leurs problèmes, que je ne pouvais pas essayer de les aider parce que c'est leur vie à eux et que je crois très sincèrement qu'on a tous et chacun nos problèmes à régler intérieurs. Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment soulagée d'un poids. Parce que je me demandais toujours, mais comment est-ce que je vais réussir à gérer mes problèmes et aussi à gérer ceux de mes proches? Comment est-ce que je peux faire pour les aider à se sentir mieux? Qu'est-ce que je peux leur recommander? Quel livre, par exemple, je peux leur proposer de lire pour justement les éveiller sur un sujet que moi, je trouve problématique chez eux? Jusqu'à ce qu'en fait, je réalise que c'était assez toxique finalement d'être comme ça. Parce que déjà, ça pouvait sembler très intrusif dans la vie des autres. Je me suis aussi demandé pourquoi est-ce que je le faisais? Est-ce que je le faisais pour vraiment les soulager eux? Ou est-ce que je le faisais pour que les relations entre eux et moi se soulagent? Vous voyez? Est-ce que t'essayes de régler un problème chez quelqu'un pour l'aider lui? Ou est-ce que t'essayes de le régler parce que tu sais que si tu règles ce problème, ça apaisera tes relations avec? Ça, je pense que c'est aussi une très bonne question à se poser pour cette nouvelle année. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment appris, c'est que à un moment donné, les amis, on ne peut rien faire. Et chaque personne doit régler son problème. Et on ne peut pas les aider à moins qu'ils nous demandent de l'aide. Ça, c'est sûr et certain. Et il faut vraiment les laisser, toutes et tous, faire leur propre cheminement. Et peut-être que c'est pas le moment pour eux. Peut-être que ça ne le sera jamais. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. On a tous des névroses, on a tous des angoisses. Et si on s'amuse à essayer de régler les névroses et les angoisses des autres, je pense qu'on se met nous-mêmes en difficulté. Donc la deuxième leçon que j'ai appris en 2023, c'est de lâcher prise un petit peu sur tout ça. Laisser les gens régler leurs problèmes comme des grandes personnes, mais ne pas interférer dans leur vie, parce que déjà, de 1, je ne suis pas eux. Et de 2, je pense que c'est un cheminement personnel de trouver ce qui ne va pas chez nous, ce qui nous angoisse, ce qui nous rend triste, et d'essayer de le régler. La dernière leçon que j'ai appris en 2023, c'est que j'étais bien plus que mon travail. Bien plus, c'est encore difficile à dire pour moi, mais en tout cas, je sais que je ne suis pas que mon travail. Vous le savez, j'adore mon boulot. J'ai une chance incroyable d'avoir pu créer mon propre métier, d'avoir réussi à m'entourer d'une super équipe dans toute cette aventure, d'avoir la chance de faire mes propres horaires et finalement d'avoir un espace créatif assez large pour pouvoir me permettre de faire plus ou moins tout ce que j'ai envie de faire dans mon boulot. Là, bien sûr, je vous parle que des aspects positifs de mon travail. Je pense que ça sert à rien d'appuyer sur les aspects négatifs parce que effectivement, il y en a, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Globalement, je sais que je suis extrêmement chanceuse, mais je sais aussi que cette chance, je la nourris au quotidien avec les efforts que je mets dans mon boulot et aussi avec les sacrifices que ça demande. Si je vous dis ça, c'est parce que j'aime tellement mon travail que toutes ces dernières années, j'ai eu tendance à mettre en fait ma vie privée de côté parce que mon travail étant ma passion, c'est très difficile de faire la différence entre les deux. Quand on a vraiment un boulot qu'on adore et qui est finalement quelque chose qu'on aime faire même en tant que hobby, où est la barrière entre le moment où on travaille et le moment où on ne travaille pas? Je pense que ça, c'est le quotidien de nombreuses personnes qui travaillent en indépendant, qui sont à leur compte et qui ont du mal à ne pas franchir la barrière entre les deux. Mais mon travail a pris une importance dans ma vie colossale. Il faut que vous sachiez que là, j'ai 28 ans et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Presque la moitié de ma vie a été passée à travailler actuellement. C'est fou quand on se le dit, n'empêche. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les gens commencent à travailler beaucoup plus tard. Le problème, c'est que 90% de mes discussions ces dernières années ne tournaient qu'autour de ça. Autour de mon travail, autour de YouTube, autour de mes vidéos, autour de, finalement, la success story qui était un petit peu mon job et qui est toujours mon job parce que je pense que ça suscite énormément de curiosité et puis surtout d'interpellation. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce que c'est possible, finalement, de pouvoir vivre de tout ça. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça se démocratise un peu plus, mais pendant très longtemps, ça n'a pas vraiment été le cas et donc, c'était souvent un sujet récurrent qui arrivait sur la table. Si bien que je me suis rendu compte au fil des années que je ne parlais de rien d'autre avec les gens que je rencontrais, ou les amis de mes parents, ou des potes, ou des proches, ou des gens que je rencontrais pour la première fois en soirée, je ne parlais de rien d'autre que de mon travail. C'est-à-dire que 90% de mes conversations étaient autour de mon boulot. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est vraiment concrètement comme si t'étais boulanger et que chaque jour on te parle du prix de ta baguette et que chaque jour on te demande qu'est-ce qu'il y a dans ton pain. Bon, et ben en fait, moi c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que j'adore parler de mon boulot parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ma passion. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais bien parler d'autre chose. Et en toute transparence avec vous, ça me faisait chier. Franchement, ça me blessait énormément. Ces dernières années, j'avais tellement envie de leur dire « Mais est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose que de mon travail ? Est-ce que, finalement, je suis pas autre chose que mon boulot ? Est-ce que c'est ça que je donne comme impression aux gens et que les gens, à chaque fois qu'ils me voient, ils se sentent obligés de me parler de... la dernière vidéo YouTube qu'ils ont vue, est-ce que je connais tel ou tel YouTuber ? Bref, les conversations étaient toujours les mêmes et j'avais vraiment l'impression de n'être que Enjoy Phoenix et de ne pas être Marie. Et du coup, cette impression était tellement fondée que c'était plus vraiment une impression. C'est que j'avais vraiment la sensation de n'avoir qu'une seule personnalité qui était mon travail. Et donc, toutes ces choses sur le côté que Marie adore, ben, je me laissais même pas le temps de les faire. Je me laissais même pas la place surtout. Parce que j'avais la sensation que c'était pas légitime, puisque de toute façon, personne ne s'y intéresse. Il y a que moi à qui ça pourrait éventuellement faire plaisir. C'est pas très intéressant, finalement. Il y avait pas la place pour ça, en fait. Parce que tout le monde me demandait toujours c'est quoi ton prochain projet, sur quoi tu travailles en ce moment, c'est quoi ta prochaine vidéo, et comment ça va les boutiques. En fait, encore une fois, ça partait pas du tout d'une mauvaise intention. Mais c'est vrai que, in fine, personne te demande « Et toi, c'est quoi le dernier bouquin que t'as lu ?» Ou alors « C'est quoi le dernier truc qu'on t'a appris à ton cours de cheval ?» Enfin bref. Donc en 2022, j'ai pris conscience de ce problème, vraiment. J'ai commencé déjà fin 2021 et toute l'année 2022. J'ai vraiment pris conscience de ce problème. Je me suis vraiment dit « Bon, là Marie, il y a effectivement quelque chose qui cloche, ça va pas. Ça va pas comme ça parce que toi t'en as marre qu'on te pose ces questions, t'en as marre d'être dans cet état à chaque fois qu'on te parle de ton boulot. Et puis peut-être aussi qu'à un moment donné, tu vas pas faire ce travail toute ta vie. Donc qu'est-ce qui va rester de toi ? Qu'est-ce qui va rester, en fait, de Marie si tu n'en prends pas soin maintenant ? Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, merde, en fait, c'est vrai que ces dernières années, j'ai totalement laissé de côté Marie. Je l'ai laissé tomber, en fait. Je lui ai pas donné d'espace d'expression, je lui ai pas donné de temps, et j'ai surtout pas écouté ses besoins, qui étaient là pourtant. Ils étaient là, ils étaient pas du tout inexistants. Donc, en 2022, j'ai amorcé le fait de commencer, finalement, à prendre soin de Marie. Et... à m'accorder du temps pour moi en dehors de mon travail, même si c'est des choses que je continue à partager au travers de mes vlogs, parce que voilà, c'est des choses que j'aime, que je continue à partager sur mes réseaux sociaux, mais que beaucoup de gens ont remarqué. Beaucoup de personnes se sont rendues compte de cette évolution, je le sais, parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous et ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs que beaucoup prennent la peine de m'écrire en me disant que voilà, j'avais changé en bien et qu'ils avaient vraiment l'impression de voir quelqu'un d'épanoui et qui prend soin de lui ou d'elle. Et réellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté de travailler un petit peu moins, alors pas beaucoup moins, mais de déléguer par exemple. Cette année, en 2023, j'ai pris une monteuse et pour moi, c'est vraiment une bénédiction parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et quand je vois le temps que je passais à faire des montages, ça m'enlevait finalement énormément de temps sur ma journée que j'aurais pu passer à faire autre chose. Alors je dis pas à faire autre chose, genre à regarder une série Netflix, mais quand bien même ce serait ça, je dis toujours en fait, et ça c'est quelque chose que je réalise petit à petit de plus en plus, que dans mon métier, on donne énormément. On donne de notre temps, on donne de notre personne, on donne de notre âme un petit peu. À chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je fais un podcast, à chaque fois que je fais un vlog, je laisse un petit peu de moi. Et on ne peut pas donner quand il n'y a plus rien à donner. On ne peut pas arroser une plante avec un seau vide. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut remplir le seau. Ou l'arrosoir, je sais pas avec quoi vous arrosez vos plantes. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on remplit notre réservoir ? Eh bien, en faisant des petites choses au quotidien qui nous font du bien. Est-ce que c'est lire un livre ? Est-ce que c'est regarder une série Netflix ? Est-ce que c'est sortir marcher dans la nature ? Est-ce que c'est... faire une de vos passions, peindre, dessiner, chanter, faire de la musique, aller au cheval comme moi, faire un sport que vous aimez, ranger, trier, créer. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui sont des moments qu'on passe avec nous-mêmes et qui nous permettent de remplir notre réservoir, si bien qu'à la fin, on est capable de donner encore un peu plus. Ces 12 dernières années, j'ai tellement donné que j'ai pas du tout pris le temps de remplir mon réservoir. C'était inenvisageable simplement parce que j'étais trop occupée. Et c'est comme ça que j'ai frôlé finalement le moment où j'ai failli tout envoyer bouler et dire c'est bon, j'arrête, parce que j'avais plus rien à donner. J'étais vraiment une coquille vide et c'est impossible. On n'est pas des machines en fait. On a besoin d'avoir ce temps pour se recentrer sur nous et pour refaire des choses qu'on aime, pour pouvoir les donner à nouveau. Et c'est vraiment ce que j'ai découvert cette année. J'ai appris que je n'étais pas que mon métier, qu'il y avait autre chose que j'aimais dans la vie. Que c'était important que je les fasse parce qu'il y a un truc qui est un peu dur, mais je vais quand même le dire parce que peut-être que ça peut être un petit wake-up call pour vous, mais à un moment donné, sur ton lit de mort, de quoi tu as envie de te rappeler? Est-ce que tu as envie de te rappeler de ta carrière, de ton métier, de ton boulot toute ta vie? Ou est-ce que tu as envie de te rappeler des moments de joie que tu as passés avec toi-même, avec tes proches, des voyages que tu as faits, des gens que tu as rencontrés? Et ben moi, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de me souvenir uniquement de mon travail. Il prend tellement de place dans ma vie que je me disais, c'est pas possible Marie, il faut que tu réalises qu'il y a autre chose que ça. Et il y a autre chose que ça. Et j'ai pas envie de me rappeler que de mon boulot le jour où je vais partir. C'est ce qui m'a aussi donné envie finalement de changer un petit peu la donne et de me recentrer, de toujours travailler mais de travailler plus intelligemment, différemment et d'inclure dans mon emploi du temps des moments qui sont aussi des moments que j'avais envie de passer avec moi-même. Parce que je trouve que c'est super important pour l'équilibre mental et que j'ai envie d'avoir une vie qui me plaît avant tout et qui ne fait pas toujours que plaisir aux autres. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi à ce sujet, parce que je sais que c'est très spécifique, parce que mon travail, c'est littéralement ma vie. Mais si jamais à un moment donné, vous avez senti que votre travail prenait trop de place sur votre vie, posez-vous la question pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour votre équilibre? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement de trouver un juste milieu? Et surtout, en fait, de trouver le temps. Même si c'est 10 minutes, de prendre soin de votre santé mentale, et ça, ça passe par toutes les activités qui vous plaisent, que j'ai pu citer auparavant. On n'est pas uniquement son travail. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris en 2023 et que j'espère vraiment continuer à expérimenter en 2024. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et surtout j'espère que vous aussi vous avez appris des leçons cette dernière année 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris, ce que vous en avez pensé. Merci, merci, merci pour tout ce que vous m'avez apporté en 2023 sur ce podcast. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point pour moi c'est énorme. Merci de vous être abonné, merci d'avoir mis des étoiles, merci de m'avoir laissé des commentaires. J'espère que 2024 sera une très très belle année pour Heure Miroir. En tout cas, je me le souhaite et je nous le souhaite. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2024, remplie de plein de beaux souvenirs, de santé surtout, c'est le plus important, et d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Ciao.